Vous écoutez, on lit pour vous.
Pourquoi la bière sans alcool coûte-t-elle si cher? Un texte de Stéphanie Bérubé, paru le 13 janvier 2025 dans la presse. La bière sans alcool est plus populaire que jamais, particulièrement en ce début d'année où beaucoup de gens se donnent pour défi de ne pas consommer d'alcool du tout durant un mois ou deux. À la boutique Le Ravitailleur de la rue Beaubien-Est à Montréal, un frigo complet est consacré aux bières sans alcool. Il y en aura bientôt un deuxième qui comprendra aussi d'autres types de boissons à 0%. J'ai une cliente qui vient de prendre 4 bières sans alcool, lance le gérant Jérémy Loisel-Payette, précisant que cet habitué, amatrice d'IPA, commence son année en évitant l'alcool. Elle a le choix. La boutique offre une trentaine de bières non alcoolisées venant d'une douzaine de microbrasseries. Par contre, il ne faut pas s'attendre à faire de grandes économies en supprimant l'alcool de la boisson, les prix étant semblables quand on compare des bières de même créneau. L'alcool dans la bière étant fortement taxé, on peut se demander pourquoi les bières qui n'en contiennent pas se vendent à des prix comparables à ceux des versions ordinaires. Il faut comprendre qu'il y a deux sortes de bières sans alcool, explique Philippe Roy, directeur général de l'Association des brasseurs du Québec. Durant des décennies, on faisait de la bière sans alcool avec un procédé artisanal. Au moment où les levures commençaient à s'activer pour transformer le sucre en alcool, on les retirait. C'est ce qui fait qu'il y a un tout petit peu d'alcool ou des traces dans ce type de bière et qu'on les étiquette à 0,5%, ce qui représente un taux maximum. Ce procédé est toujours largement utilisé par les microbrasseries. Les grandes entreprises font désormais autrement. Avec la technologie, poursuit Philippe Roy, on fait la bière et on la repasse dans une machine qui coûte une fortune. Elle est capable d'aller chercher l'alcool et de le retirer complètement du produit. Selon Philippe Roy, l'équipement technologique et le procédé supplémentaire expliquent le coût de la bière sans alcool produite par les grandes industries. Le prix des bières, avec ou sans alcool, varie toutefois énormément. Au Québec, c'est le détaillant qui décide du prix auquel il vendra sa bière, même s'il y a un prix minimum à respecter. Si les bières de spécialité se détaillent facilement au-delà de 4 $ ou 5 $ l'unité, une caisse de 12 canettes de bière sans alcool de marque Maison se vend moins de 10 $ dans une épicerie de grande chaîne. C'est moitié moins cher qu'une caisse de 12 canettes alcoolisées de qualité comparable. Sans alcool, sans taxe d'assises. Une chose est constante toutefois. Le taux de taxation est le même pour tous et représente environ le tiers du prix payé pour une canette de bière avec alcool, sans calculer les TPS et TVQ qui s'ajoutent. Ottawa impose une taxe d'accises et Québec une taxe spécifique. Le taux d'imposition varie selon le taux d'alcool et la quantité produite par le fabricant, mais à l'Association des brasseurs du Québec, on estime que l'on peut calculer un total de 35% de taxes pour la majorité des bières. Aux États-Unis, la même bière a 17% de taxes. La bière au Québec est deux fois plus taxée que la même bière aux États-Unis, déplore Philippe Roy. Une bière sans alcool affichée au même prix qu'une bière avec alcool aurait donc un prix hors taxe environ 50% plus élevé. Est-ce que le coût de production le justifie? C'est une grosse gorgée à avaler. 50% plus cher? Une bière sans alcool affichée au même prix qu'une bière avec alcool, malgré l'absence d'environ 35% de taxes sur l'alcool, permet aux vendeurs d'empocher environ 50% de plus. Bière avec alcool. Prix affiché, 10 $. Taxe sur l'alcool, 35%, 3,50 $. Prix hors taxe, 6,50 $. Bière sans alcool. Prix affiché et hors taxe, 10 $, soit 50% de plus que les 6,50 $ de la bière avec alcool. C'est pourtant le cas, soutient Philippe Roy, car malgré la popularité de la bière sans alcool, le marché ne représente en moyenne que 5% ou 6% pour les grands brasseurs. Pas assez pour faire de réelles économies d'échelle. Vous écoutez « Pourquoi la bière sans alcool coûte-t-elle si cher ?» un texte de Stéphanie Bérubé, paru le 13 janvier 2025 dans la presse. Plus d'étapes. Les microbrasseries de toute taille occupent environ 10% du marché de la bière dans la province. Elles sont de plus en plus nombreuses à se lancer aussi dans l'aventure du sans-alcool. C'est le cas de la microbrasserie L'Alchimiste à Joliette, qui vient d'ajouter 5 bières non-alcoolisées à sa collection. La blanche de L'Alchimiste, l'original, se détaille 3,29 $. Il faut débourser 3,99 $ pour sa version sans alcool. Pourquoi? On n'utilise pas les mêmes levures, explique Paul Brisset, propriétaire de L'Alchimiste, qui explique que celles qui entrent dans la fabrication de sa gamme non alcoolisée sont plus chères. Mais il y a plus. Après avoir stoppé la fermentation au début du processus, le brasseur doit absolument s'assurer qu'elle ne reprendra pas naturellement une fois la bière mise en canette. C'est une étape supplémentaire cruciale si on ne veut pas que le taux d'alcool augmente naturellement et sans contrôle. Il y a moins de grains dans la bière sans alcool, mais plus d'étapes, dont la pasteurisation, explique Paul Brisset, qui assure que ça vaut le coup. Et le coût. Car en plus de sa nouvelle gamme, L'Alchimiste lancera à la fin de janvier des bières sans alcool et sans gluten. Un gros marché pour les détaillants. La bière sans alcool est non seulement populaire auprès des consommateurs, elle l'est aussi auprès des détaillants. En plus de la retrouver sur les tablettes des épiceries et des dépanneurs, on en retrouve dans des commerces moins traditionnels comme Dollarama, Pharmaprix ou Canadian Tire. Son absence d'alcool la rend accessible partout, comme un soda ou de l'eau. Philippe Roy, directeur général de l'Association des brasseurs du Québec, souligne que, pour les brasseurs qui la produisent, qu'elle soit vendue dans un Maxi ou un Canadian Tire, ça ne change pas grand-chose. Pour eux, c'est une façon de rejoindre plus facilement les consommateurs. C'est sûr que c'est surprenant. Il va falloir qu'on s'habitue. La Société des alcools du Québec, SAQ, compte également prendre sa part du marché, ayant déjà augmenté son offre dans les boissons sans alcool en général. La SAQ a fait un appel de proposition l'automne dernier pour bonifier cette offre dans la bière, mais n'a pas déterminé dans quel proportion, elle compte augmenter le nombre de produits sans alcool sur ses tablettes. Des dégustations de bières sans alcool proposées par les producteurs ou les distributeurs seront faites bientôt pour choisir les produits qui conviennent à la société d'État. Cet élargissement de l'offre de la SAQ dans les boissons sans alcool a fait sourciller beaucoup de monde. La question se pose, dit Philippe Roy de l'Association des brasseurs du Québec. Si elles se mettent à vendre du sans-alcool. Pourquoi pas des chips aussi? Ou du tonic pour aller avec le gin tonic? C'est un débat à avoir. Pour la présidente directrice générale du Conseil de la transformation alimentaire du Québec, il n'y a pas la matière à débat. La SAQ s'éloigne de sa mission, dit Sylvie Cloutier, qui croit que la société d'État devrait garder cet espace tablette pour les alcools et spiritueux locaux. On prend de l'espace qui devrait leur être réservé pour faire place à des produits qui peuvent être vendus à travers les milliers d'épiceries et dépanneurs du Québec, dit-elle. Philippe Bohème, copropriétaire de la boutique Le Ravitailleur, croit aussi que la SAQ ne devrait pas venir prendre des ventes aux commerçants qui, eux, ne peuvent pas vendre certains types de boissons alcoolisées. On aimerait ça, nous, vendre du fort québécois, précise-t-il. La SAQ, c'est la Société des alcools du Québec. Ce n'est pas du tout son mandat de vendre autre chose que de l'alcool. C'était « Pourquoi la bière sans alcool coûte-t-elle si cher ?» un texte de Stéphanie Bérubé, paru le 13 janvier 2025 dans La Presse.
« trois façons de conserver une bouteille de vin ouverte, un texte de Karine Duplessis-Pichet, paru le 11 janvier 2025 dans la presse. Il est impossible de dire avec exactitude combien de jours se conserve une bouteille de vin une fois ouverte. Tout dépend de sa couleur, de la quantité de liquide restant et des sulfites ajoutés au départ. Il existe toutefois quelques astuces pour ne rien gaspiller et pour conserver plus longtemps un vin entamé. Gardez au frigo. C'est bien connu. Le froid ralentit l'oxydation. C'est pourquoi le master sommelier Pierre-Alexis Soulière préconise de conserver ses vins entamés au réfrigérateur. Cette méthode permet de garder sa bouteille de 2 à 3 jours, parfois plus, selon le type de vin, car les blancs et les rosés s'oxydent généralement plus rapidement que les rouges. La grosse différence entre les blancs et les rouges, ce sont les tanins, dit M. Soulière. Les tanins sont des antioxydants naturels. C'est pourquoi les vins plus tanniques, comme les Bordeaux ou les vins du Piémont, semblent se conserver plus longtemps une fois ouverts qu'un Pinot noir ou un Gamay moins riche en tanins. Les sulfites, ajoutés en différentes quantités dans la majorité des vins pour les protéger contre l'oxydation, influencent aussi la durée de conservation de la bouteille une fois ouverte. Les blancs et les rosés en contiennent plus que les rouges. Professeur de sommellerie à l'Institut de tourisme et d'hôtellerie du Québec, ITHQ, Pascal Patron note que les vins certifiés bio, biodynamiques ou nature, contiennent quant à eux moins de sulfites. C'est pourquoi il faut les boire plus rapidement que ceux issus de l'agriculture conventionnelle. Pompez l'air. Divers gadgets promettent de prolonger la durée de vie du vin entamé. Le professeur de sommellerie Pascal Patron en a testé une douzaine. Selon lui, il n'existe pas d'outil miracle, mais le plus efficace est la pompe à air. Tu peux facilement conserver ta bouteille une semaine, assure-t-il. Il faut toutefois pomper chaque jour, sinon c'est foutu. Selon une étude publiée dans le Journal of Culinary Science and Technology en 2011, pomper l'air d'une bouteille est surtout efficace si on conserve la bouteille à la température de la pièce. M. Patron recommande également l'ajout de gaz inerte dans la bouteille entamée. Les marques Private Preserve ou Wine Save commercialise un mélange d'argon, de dioxyde de carbone et d'azote qui se dépose à la surface du liquide et le protège. Cette façon de faire est plus coûteuse, mais plus efficace, observe Pascal Patron. L'enseignant a déjà conservé de cette manière une bouteille ayant un verre ou deux en moins pendant 6 mois. Transvidé. Chroniqueur spécialisé dans les vins depuis 40 ans, Jean Aubry transfère son vin entamé dans une demi-bouteille, soit un format de 375 millilitres. Tu remplis au maximum pour qu'il y ait le moins d'air possible et tu refermes avec un bouchon propre, explique-t-il. De cette manière, la boisson conserve ses qualités pendant près d'une semaine si elle est gardée au réfrigérateur. Si l'oxygène abîme le vin à long terme, à court terme, le master sommelier Pierre-Alexis Soulière observe qu'il a tendance à le bonifier. Le vin est souvent meilleur le lendemain et, parfois même, le surlendemain, ajoute-t-il. Après quelques jours, si le vin dégage des odeurs de vinaigre, de noix ou de pommes pourries, c'est signe qu'il n'est plus bon. Jean Aubry convient que le seul moyen d'éviter que le vin ne s'oxyde est de finir la bouteille. Conseil en vrac. Un bouchon à vin effervescent, réutilisable, est essentiel pour conserver une bouteille de mousseux après son ouverture. Ils sont d'une grande efficacité dit Kathleen McNeil, professeure de sommellerie à l'ITHQ. Les mousseux entamés se gardent au réfrigérateur 2 jours au maximum. Les vins de dessert et les vins fortifiés, comme les portos, ont la couenne plus dure en raison de taux d'alcool et de sucrosité plus élevés, précise l'enseignante. Ils se conservent au frais de 3 à 4 semaines sans problème. C'était 3 façons de conserver une bouteille de vin ouverte, un texte de Karine Duplessis-Piché, paru le 11 janvier 2025 dans la presse.
La lune prend un petit coup de vieux. Un texte de Pierre Selerier de l'agence France Presse paru le 18 décembre 2024 dans Le Devoir. La lune prend un petit coup de vieux à la suite d'une étude d'astronomes qui utilise la mécanique céleste pour confirmer que le satellite de la Terre est né très peu de temps après la formation du système solaire. Plus personne ou presque ne dispute des circonstances de sa naissance, avec la percussion de la Terre alors à peine formée par une autre planète naissante et dont les restes de l'impact se sont agglomérés pour former la Lune. Son âge est une autre affaire. On le calcule normalement à partir de celui des roches qui se sont cristallisées quand, en se refroidissant, l'océan de magma originel a formé la croûte lunaire. Des roches datées à 4,35 milliards d'années. La Lune paraît ainsi formée très tard, 200 millions d'années après les débuts du système solaire. Il y a 4,56 milliards d'années, indique à l'AFP Alessandro Morbidelli, professeur au Collège de France et co-auteur de l'étude parue dans Nature. Trop tard, même selon ce spécialiste de la formation et de l'évolution des systèmes planétaires. Parce que cet âge tardif s'accorde mal avec les modèles de formation de planètes, d'une part, et, d'autre part, à cause de la présence de cristaux de zircon, les plus résilients qui soient, datés de plus de 4,5 milliards d'années. Une discussion sur ce sujet en 2023 avec les 2 autres auteurs de l'étude, Thorstein Klein au Max Planck et Francis Nimmo à l'Université de Californie à Santa Cruz, a produit une idée très simple sur le papier. La Lune a connu une 2e fusion par la Terre, lance M. Morbidelli. Selon ce scénario, la Lune se forme environ 55 millions d'années après les débuts du système solaire, et non plus 200. Elle y gagne alors sa première croûte, après quelques millions d'années. Elle fait un peu la folle. Et puis, fruit de la mécanique céleste, elle prend petit à petit ses distances d'avec sa mère, la Terre. En s'éloignant, elle passe d'une orbite calée sur l'équateur terrestre à une orbite calée sur l'orbite de la Terre autour du Soleil. Et dans cette transition, elle traverse une phase un peu chaotique, dynamique, elle fait un peu la folle, décrit M. Morbidelli. Cette transition d'orbite induit des forces de marée énormes sur les entrailles lunaires. Générées par la gravité de la Terre, ces forces de marée provoquent une fonte du manteau lunaire sous la croûte. On est alors à 200 millions d'années après la formation du système solaire et la croûte lunaire perd un peu de sa rigidité. Elle subit des éruptions volcaniques qui remodèlent partiellement sa surface et des fontes qui en engloutissent des parties. Ce phénomène de force de marée n'a rien d'extraordinaire. Il est par exemple toujours à l'œuvre sur Io, une lune de Jupiter, qui subit en permanence des éruptions. Sur la Lune, il a été suffisamment puissant pour entraîner une refonte partielle de la croûte, avec pour effet de remettre les chronomètres radioactifs à zéro. Ce qui explique par exemple que, dans cette croûte refondue, des roches de basalte issues de profondeurs différentes ont en apparence le même âge quand on les date à partir d'une méthode utilisant la désintégration atomique de certains de leurs éléments. Parce que si vous refondez les roches et que vous les recristallisez, vous mesurez seulement l'âge de la dernière cristallisation, explique M. Morbidelli. Le phénomène s'accorderait bien aussi, selon les auteurs de l'étude, avec des caractéristiques physiques de l'astre, comme, par exemple, un déficit de bassin d'impact de météorites par rapport à ceux escomptés par les modèles et qui auraient été comblés par des remontées de magma lors de la deuxième fonte. Au final, la proposition des chercheurs a tout de l'œuf de Christophe Colomb et de son fameux « il suffit d'y penser », selon M. Morbidelli, qui ne manque pas de souligner l'exigence d'un peu de modélisation dynamique et thermique pour en arriver là. C'était « La Lune prend un petit coup de vieux », un texte de Pierre Seulerier de l'agence France Presse paru le 18 décembre 2024 dans Le Devoir.
Mot malade, un billet signé Michel Rioux, paru le 25 octobre 2023 dans L'Autre Journal. Nous vivons dans une curieuse époque où ce ne sont pas seulement les grabataires qui sont malades. De plus en plus, en effet, ce sont les mots qui sont frappés de mots qui courent le risque de devenir incurables. S'il est vrai que la vérité est la première victime des guerres, les mots, en ces temps incertains, sont déformés, dénaturés, détournés de leur sens véritable pour, la plupart du temps, se mettre au service d'une idéologie ou servir de paravent à des actions qui n'osent pas dire leur nom. Les récentes péripéties entourant les mesures annoncées par le gouvernement québécois qui visent à soutenir les universités francophones au Québec en sont une illustration parfaite. Kill McGill, a-t-on écrit, sans broncher ni même rougir, dans The Gazette. Dans un commentaire à ce texte, un lecteur a même écrit que la CAQ dit, au fond, que le Québec n'est pas capable d'attirer des francophones de valeur et ne pourra survivre qu'en suçant le sang des Anglos. Un génocide culturel serait mis en œuvre et seuls les lecteurs de The Gazette en auraient été informés. Dans le style inimitable qui est le sien, Jean-François Lisée, dans Le Devoir, a justement identifié à quel point c'est encore le mépris qui nourrit pareil raisonnement. Doit-on comprendre que la CAQ a été à ce point mesquine qu'elle a retiré à McGill le cadeau d'un demi-milliard de dollars consenti l'an dernier en lui offrant l'ancien hôpital Royal Victoria pour son agrandissement? A-t-elle décidé d'y installer plutôt du logement social et abordable? Non, ce n'est pas le sujet. Aurait-elle alors annulé le financement de 475 millions de dollars qui vient avec ce don, frôlant au total le milliard de dollars? Il n'en est pas question, a-t-il écrit. Il y a bien sûr des ajustements nécessaires à ce projet, mais pour l'essentiel, même avec un puissant microscope, il est difficile d'y trouver quelques relents de racisme. Mais comme c'est d'ordinaire le cas quand il est question de déterminer qui va marcher à genoux dans la gravelle ou se tenir debout, les acteurs du débat public se divisent en deux camps. D'un côté, on trouve les Pierre Fortin, Yves Gingras, Maxime Pedneau-Jobin, Philippe Léger. De l'autre, les Michel C. Auger, Michel Leblanc, Graham Fraser et, bien sûr, la mairesse de Montréal. Terrorisme. Il y a une vingtaine d'années, alors que les hordes du premier ministre israélien Ariel Sharon avaient massacré hommes, femmes et enfants palestiniens, je n'avais pas hésité à qualifier ces actes barbares de terrorisme d'État. Mais aujourd'hui, il faudrait, selon quelques beaux esprits mal à l'aise quand il s'agit de nommer les choses, se retenir de qualifier de terrorisme l'attaque des sbires du Hamas le 7 octobre, qui a fait des centaines de victimes, hommes, femmes et enfants israéliens. La réalité des choses ne change pas si les horreurs sont le fait de l'un ou l'autre camp. Et Edgar Morin a raison quand il écrit que le terrorisme, ce sont des actes de violence frappant indistinctement des populations civiles. À ce chapitre, les bombes atomiques sur le Japon, les bombardements des populations civiles, tant en Allemagne qu'en France, en Angleterre, en Union soviétique et à peu près partout en Europe durant la dernière guerre, ont été des actes de terrorisme. Voilà. Langue impersonnelle. Les guides de l'écriture inclusive apparaissent un peu partout avec, comme vaisseau amiral, le gouvernement fédéral et son guide, l'inclusionnaire, comme le soulignait récemment Patrick Moreau dans Le Devoir. C'est ainsi qu'on conseille fortement d'éviter les adjectifs et les participes passés qui s'accordent et de privilégier des formulations prétendument plus neutres. Dans la foulée, le mot « personne », s'il n'en tenait qu'à ses avocats, deviendrait le substantif le plus utilisé dans la langue française. Cette pensée a connu une profondeur abyssale en commission parlementaire à Québec, quand un député libéral a présenté un amendement pour changer l'expression « femme enceinte » par « personne enceinte ». Il faut être conscient que cette recherche de tournures impersonnelles favorise une construction linguistique calquée sur l'anglais. Moreau soutient qu'il s'agit de nier l'une des spécificités de la langue française afin d'en aligner l'usage sur celui de l'anglais, ajoutant que cela génère une dépersonnalisation de la langue en s'attaquant de la sorte à un élément constitutif du français. Babelistan. Si l'image n'était pas aussi incongrue, on pourrait affirmer que nous assistons présentement à une vaste opération qui consiste à émasculer la langue française dans le sens où on la dépouille de sa force originelle. Tant il est vrai qu'à partir du moment où une échelle s'appelle une chaise et une maison une rue, les mots deviennent des mots, M-A-U-X, et nous entrons allègrement en Babelistan. C'était « Mots malades », un billet signé Michel Rioux, paru le 25 octobre 2023, dans l'autre journal.